BFM Business et la Tribune présentent Débat et controverse. Les experts. Laure Clauzier.
Il est 9h30. Bonjour à tous. Bienvenue dans Les Experts au menu ce matin et avec nous pour discuter de l'ensemble des sujets économiques. C'est Dorothée Rouzet qui nous rejoint, chef économiste de la Direction Générale du Trésor. Emmanuel Bonjour. Combes en face, professeur à l'Université Bonjour. Paris 1, Panthéon, Sorbonne et à Schema Business School. Et Raphaël Gallardo, chef économiste chez Carmignac. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va encore débattre encore un peu aujourd'hui des questions de dette avec les propositions de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi? Notamment parce que tous les économistes réagissent. Si vous avez Twitter X, vous voyez à quel point chacun y va de sa description, de son avis sur les questions de création monétaire. Il y a des débats enflammés. Vous aurez l'avis de nos invités dans un instant. On dira juste un mot également de Manon Aubry qui parle des milliardaires pour les qualifier de nuisibles. Il faut les détruire, les interdire. Qu'est-ce que ça donne dans l'économie? Rien de bon. On verra ça également dans quelques instants. Budget 2027, l'état d'esprit est clair. On indexe ce qui rapporte, comme les franchises médicales, on désindexe ce qui coûte, par exemple les retraites. Ce sont les premières pistes qu'on va détailler. On va également reparler de la dette américaine. Il n'y a pas que la dette française, 40 000 milliards d'euros de dette, le 30 ans US qui dépasse les 5,25 ce matin. Est-ce que c'est inquiétant ou pas? On verra ça avec nos invités. Les experts, c'est parti.
Débat et controverse. Les experts sur BFM Business.
Dorothée Rouzet, j'ai pas encore vu votre long tweet sur les réseaux sociaux expliquant votre avis personnel sur les propositions de Jean-Luc Mélenchon de mettre la dette au feu. C'est-à-dire que vous dites que c'est intéressant, qu'il faut regarder, ou vous dites c'est bon, j'ai déjà tout entendu.
Non, alors c'est un débat qu'on a déjà eu en plus il y a quelques années, donc qui revient un peu quand on cherche des solutions faciles. Mais justement, malheureusement, les solutions faciles, elles ont tendance à être un peu trop faciles pour être vraies. Là, en fait, ce dont il parle, c'est de dire, après tout, une partie de la dette française, elle est détenue par la Banque de France, on n'a qu'à l'annuler, ça fera mal à personne, si je résume à grands traits. Évidemment, la réalité, c'est un peu plus compliqué, pour plusieurs raisons. Alors d'abord, c'est illégal par rapport aux traités européens, je pense que c'est pas sa première préoccupation.
Oui, ça, je pense qu'ils sont
Mais
fichus,
enfin, quand même, la Banque centrale, elle est indépendante, elle n'est pas censée financer les États. Alors ensuite, je ne sais pas si dans son esprit, on annule les dettes de tous les États européens ou juste la dette française. Si c'est que la dette française, ça revient à faire payer aux autres Européens notre dette, je ne suis pas sûre qu'il soit d'accord, il faudrait qu'il le soit. Et puis, enfin, fondamentalement, c'est à la fois inutile et très dangereux. Pourquoi inutile? Parce que à la fin, je dirais, la Banque centrale, elle est détenue par les États. Si on crée un grand trou dans le bilan de la Banque centrale, ça ne se verra peut-être pas tout de suite. Mais à la fin, quand elle fait des bénéfices parce qu'elle reçoit des intérêts, elle les reverse in fine sous forme de dividendes aux États qui sont ses actionnaires. Quand elle fait des pertes, elle ne verse pas de dividendes pendant un temps. Voire si elle en faisait beaucoup, il faudrait qu'elle soit...
Donc c'est pas neutre.
À la fin, je dirais, si on prend un budget public de toutes les entités publiques, État et Banque centrale, c'est un peu un jeu de bento. Mmh. Mais surtout, pourquoi c'est dangereux? Parce que un État qui donne le signal de, au fond, je renonce à payer ma dette... Alors même si c'est le quart de la dette publique qui est détenue par la Banque de France pour le compte de la BCE, c'est un peu, on peut pas dire ah oui mais ça c'est différent du reste de notre dette qui est détenue par les investisseurs étrangers dont on a quand même besoin pour nous prêter à partir du moment où on a toujours 5% de déficit, hein, donc on peut pas se dire au fait demain j'ai plus besoin d'emprunter, et par les épargnants français, il y a aussi la moitié il y a aussi un autre quart de la dette française qui est détenue par les Français à travers les assurances vie, le livret A, les gestionnaires d'actifs divers, et qui sont à la fin les bas de laine des épargnants français. Et on peut pas dire je ne paye pas un bout de ma dette, mais ça n'a absolument aucune incidence sur la manière dont les gens qui me prêtent vont percevoir ma volonté de payer le reste.
Raphaël Gallardo, l'objectif de Jean-Luc Mélenchon, c'est de dire on n'est pas contraint par la dette. En fait, on se raconte des histoires. Finalement, ça n'est rien. Aujourd'hui, quand les investisseurs étrangers pour partir regardent la dette française, ils la regardent avec envie. On arrive toujours à se financer. Hein. Les adjudications se passent bien. Enfin, il n'y a pas de moment où on se dit qu'on ne va pas se financer. À quel niveau on est aujourd'hui sous pression?
On n'est pas sous pression pour l'instant, parce que quand on regarde l'équation budgétaire, enfin l'équation de la dette française, on n'a pas encore un effet boule de neige en fait. La dette française, elle augmente parce qu'on a un déficit primaire, c'est-à-dire hors charge d'intérêt qui est très élevé. Mais jusqu'à présent, on n'avait pas cet effet boule de neige qui faisait que la croissance ne suffisait pas à générer les revenus qui payaient les intérêts. On est quasiment en train d'aller vers cette équation où là, ça devient ce qu'on appelle l'effet boule de neige, parce que ça fait une forme comme une avalanche. Mais effectivement, si on décidait d'incinérer la crédibilité de la signature française avec une telle mesure, je peux vous dire que effectivement, l'écart de taux avec l'Allemagne bondirait, et là, tout de suite, on serait dans cette dynamique explosive. Donc, ce serait extrêmement dangereux. Et là, je pense que très rapidement, on aurait un phénomène de défiance du marché obligataire beaucoup plus prononcé, un peu comme ce qu'a vécu le Royaume-Uni sous Liz Truss en septembre 2022.
Oui, ça arrive.
Effectivement, d'un seul coup, on a eu cette perte de confiance. Je pense que ce qui est très important, c'est effectivement de rappeler, comme ça a été fait, que c'est une mauvaise idée si la France avait sa souveraineté monétaire, mais c'est une idée encore pire vu le setup institutionnel dans lequel on est, c'est-à-dire avec une monnaie commune, on peut pas faire ça à nos partenaires. Donc ce serait effectivement extrêmement dangereux, surtout qu'on est déjà dans un contexte mondial où toutes les dettes publiques des pays développés sont aujourd'hui sous pression.
Emmanuel.
En fait, il a raison politiquement, il a tort juridiquement.
Parce que pour le narratif,
il a raison politiquement. Il y a des pays qui ont décidé un jour de s'asseoir sur leurs dettes. Je veux dire, quand Lénine arrive au pouvoir en 1917, on rince tout le monde. Donc, politiquement, oui, un État est souverain. La définition d'un État souverain, c'est que s'il veut annuler sa dette, il le peut. Mais il a tort d'abord juridiquement. Comme l'a dit Dorothée, c'est interdit, c'est l'article 123. Hein. On monétise pas les dettes, parce que ça revient à monétiser la dette. Hein. Et surtout, c'est une catastrophe économique. Donc, il a complètement tort économiquement. Et il a tort économiquement. Je trouve qu'on n'a pas assez insisté là-dessus. Annuler une dette, qu'elle soit partielle ou pas, c'est annuler un stock. Alors, le problème de la France, comme vous venez de le dire, c'est pas le stock. La France, elle se finance, hein. Tous les jeudis, on arrive à lever des OAT. Le problème, c'est le flux. En clair, il va falloir chaque année emprunter plus que les recettes. Or là, votre problème, non seulement il est pas réglé, mais il va devenir insoluble. Il va devenir insoluble parce qu'on vous prêtera au mieux avec une prime de risque, voire même dans un contexte de concurrence entre les émetteurs, on peut même ne plus vous prêter. En fait, il faut appeler un chat un chat. La proposition de Jean-Luc Mélenchon, ça revient à dire que la France sort de la zone euro.
Enfin, in concreto. Oui, c'est ça.
Donc, il faut appeler un chat un chat. Il a le droit de le dire, il a le droit de le penser. Je pense que c'est une catastrophe absolue, mais au moins, il faut appeler un chat
un
chat.
Mais c'est un Brexit, quoi.
Mais c'est évident. Avec une sorte de dévaluation ensuite de la monnaie française, qui veut dire inflation importée. Car attention, annuler une dette, en réalité, la monnaie, c'est une dette. Simplement, c'est une dette qu'on transforme en monnaie, c'est une dette à court terme, vous aurez en plus de l'inflation. Mais le truc le plus important, c'est de bien faire comprendre aux Français que ça ne règle pas le problème structurel de la France depuis 50 ans, depuis 74, hein. Ouais. C'est qu'on est incapable d'avoir un budget à l'équilibre. Ouais. Donc il faut chaque année aller chercher de l'argent. Mettez-vous à la place d'un investisseur étranger, parce que la dette est détenue, je crois, à peu près à 60-70% par des non-résidents. On vient de vous dire, j'annule une partie... Vous n'avez plus de crédibilité. Si vous n'avez plus de crédibilité, il était évident que vous n'accepteriez pas de prêter sans, à minima, une forte prime de risque. Donc, en réalité, non seulement on ne résout pas le problème de la France, mais on ne fait que l'accentuer. Donc, c'est typiquement la fausse, j'osais pas dire bonne mesure, mais c'est une mesure qui est catastrophique. Mais je crains, malheureusement, que politiquement, ça puisse être audible. Notamment que les Français se disent, puisque de toute façon, c'est de l'argent stocké à la Banque de France avec cette vieille image du bas de laine, ça ne coûtera rien. Si, ça coûtera, ça sera une catastrophique. Et pensez aussi à une chose, si les taux d'intérêt augmentent, logiquement, le cours des obligations baisse, tous les fonds d'assurance vie de nos retraités, de nos épargnants, il va se passer quoi? Enfin, c'est peut-être même une crise financière, une crise systémique. Donc c'est une folie économique, mais malheureusement, j'ai peur que politiquement, ça soit rentable.
Dorothée Rouzet, ça a quand même un intérêt. Vous me dites qu'on a déjà fait ça en 2020. Je faisais autre chose, donc je me souviens pas de ces conversations-là. Mais on n'a jamais autant parlé de la dette que là, en cette rentrée. Il semble qu'il y ait quand même une prise de conscience chez les Français. Au moins, on débat d'un sujet économique. Ouais. C'est plus intéressant que sur les milliardaires, par exemple. Hein.
Alors, oui, ça fait parler de la dette, mais ça fait parler de la dette en disant finalement, c'est pas un problème, ne nous en préoccupons pas. Bon, je suis assez d'accord avec Manuel. Notre problème, c'est pas tant la dette que le déficit. Et en fait, se dire on peut finalement s'exonérer de tout effort sur le déficit parce que d'un coup de baguette magique, on annule 20% de la dette et donc en fait, ça nous fait une respiration, c'est vraiment un peu la poudre de perlimpinpin.
Hein. C'est pour pas baisser les dépenses. Enfin, oui. C'est à ça que ça sert. Quoi.
Oui, mais si on continue, je suis d'accord avec Emmanuel, la conséquence naturelle. Alors, il y a des pays qui ont fait défaut. Enfin, c'est un défaut. Hein. Il y a des pays qui ont fait défaut. Regardez l'Argentine, la Grèce avec la restructuration. Qu'est-ce qui se passe? Pendant, 10 ans, si tout va bien, vous n'avez pas accès au marché financier. Vous n'avez pas accès au marché financier, ça veut dire votre déficit, vous ne pouvez le financer qu'en empruntant auprès de vos propres épargnants, vos propres banques dans le pays. et le reste c'est zéro.
Mais c'est-à-dire concrètement, on peut pas payer les retraites, on a un problème pour faire finir le mois.
Quoi. C'est même plus de la prime de risque.
Non, on peut pas faire 5% de déficit, ni 4 ni 3. C'est qu'il faut assez vite revenir à l'équilibre budgétaire parce qu'on ne peut plus emprunter. Donc c'est un peu ça le coût du défaut, hein. C'est que vous êtes coupé des marchés financiers, vous payez la pénalité jusqu'à reconstruire une crédibilité petit à petit, vous remettre à emprunter très cher 10 ans après, et puis un peu moins cher, etc.
Si et tout va bien. Vous pouvez même pas importer. Enfin,
dans un contexte
et où... vous pouvez pas importer.
Il faut payer. Donc dans un contexte où encore une fois on n'a pas de problème de financement au sens où les investisseurs nous font confiance.
Oui.
Notre problème c'est le montant qu'on doit emprunter chaque année parce qu'on a un déficit. Notre sujet c'est le déficit. Et donc là, quelque part, c'est résoudre un faux problème en aggravant le vrai problème.
Je pense que c'est la meilleure réponse à objecter à Jean-Luc Mélenchon, c'est de lui dire, en fait, vous pensez qu'en résolvant un problème de stock, vous résolvez un problème de flux. Alors, c'est peut-être un peu un télo comme raisonnement, mais le problème sera toujours le même demain matin. Il faudra aller lever des fonds et pour le coup, on sera dans la défiance absolue. Hein.
Raphaël Guéradeau, tout ça dans un contexte où il y a beaucoup de dettes sur le marché à financer, beaucoup de dettes américaines, beaucoup de dettes japonaises, beaucoup de dettes européennes avec des investisseurs, beaucoup de dettes de l'ensemble des GAFAM qui émettent aussi des titres. Est-ce qu'il y aura assez d'argent pour financer tout ça?
Il y aura un équilibre sur le marché, mais il sera un prix plus élevé, c'est-à-dire avec des taux réels beaucoup plus élevés. Effectivement, aujourd'hui, on a en fait la conjonction de plusieurs éléments, mais on a une séquence d'événements qui nous font penser effectivement que le marché obligataire est en train de changer de régime. Ça a commencé avec l'intervention des Américains sur le niveau de l'euro-yen, où les Américains ont eu peur que les Japonais soient obligés d'intervenir sur le yen pour défendre leur monnaie, et ce faisant, ils vendraient de la dette américaine. Donc les Américains ont dit on va soutenir le yen, mais on veut pas donner le signal qu'on va faire baisser le dollar, donc on va vendre des euros.
Les Japonais, ils possèdent combien de dettes américaines?
Alors, c'est les plus gros détenteurs, en fait. Donc, c'est à peu près 10%.
Il ne faut vraiment pas qu'ils vendent.
Non, voilà. Ça n'a pas marché. Ensuite, vous avez Scott Bessent, donc le secrétaire au Trésor américain, qui dit le niveau des taux d'intérêt est inacceptable, notamment sur la partie longue. Donc, on va faire des rachats de notre propre dette. Comme si lui aussi c'était un peu l'argent magique, sachant que on va racheter notre propre dette en faisant quoi ? En émettant de la dette plus courte. Donc c'est-à-dire il a une solution un peu brésilienne, c'est-à-dire emprunter à long terme me coûte trop d'argent, donc je vais emprunter à court terme.
C'est le crédit revolving.
C'est extrêmement dangereux. Donc vous avez cette perte de crédibilité à la fois inflationniste, c'est-à-dire la politique monétaire du Japon n'est plus crédible. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est que la politique budgétaire des grands États comme la France, le Japon, les États-Unis, le Royaume-Uni est de moins en moins crédible. Vous avez aussi une crise géopolitique. Parce que, pour moi, ce qui s'est passé en Iran, c'est l'équivalent de la crise de Suez pour le Royaume-Uni et la France. C'est-à-dire, c'est une décrédibilisation du statut du dollar comme valeur refuge. Donc, vous avez moins d'acheteurs de dettes américaines, et on le voit avec la remontée en fanfare de l'or aujourd'hui. Vous avez également les géants de la tech qui émettent de la dette et qui sont en concurrence directe avec les États. Et cerise sur le gâteau, vous avez même la banque centrale de la monnaie pivot du système, c'est-à-dire la réserve fédérale américaine, qui envoie des messages complètement incompréhensibles sur le contrôle de l'inflation. Donc tout ça mis bout à bout, vous avez un marché obligataire qui est en train de se révolter contre les États, contre...
Il se révolte, vous dites carrément.
Oui. Contre ce régime, ce nouveau régime inflationniste, contre des banques centrales qui ne font plus leur boulot. Et donc, effectivement, ce phénomène de remontée des taux d'intérêt, il est mondial. Donc, effectivement, si la France commence à agiter le chiffon rouge de la monétisation, de l'annulation de la dette, le marché ne fera pas de cadeau.
Emmanuel ?
Non, sans vouloir paraphraser Raphaël, peut-être pour nos auditeurs, ce qui est super important à comprendre, c'est que les taux à long terme, c'est assez basique, c'est un marché. Hein. Il y a une offre, il y a une demande, offre d'épargne.
Et un prix.
Et la demande, c'est l'investissement. S'il y a plus de demande, donc plus d'investissement, ça fait monter le prix mécaniquement. Ça, c'est structurel, c'est ce qu'a dit Raphaël. Hein. Il y a bien sûr les GAFAB, il n'y a pas que ça. Il y a la transition climatique à financer, les efforts de dépenses. Donc ça, déjà, structurellement, ça fait monter les taux. Et vous rajoutez par-dessus ça, ce qu'on appelle la prime de risque. Et la prime de risque, elle dépend notamment de la crédibilité. Donc, si vous voulez rajouter du défaut de crédibilité en France, alors qu'on est dans un mouvement qui, de toute façon, on le voit bien depuis 2022, hein, les taux longs montent structurellement, c'est rajouter de l'huile sur l'huile, si j'ose dire, sur le feu en tout cas. Donc, vous voyez, c'est intéressant de bien distinguer les facteurs, de toute façon, même si on était crédible, hein, même si on avait des politiques monétaires et des politiques budgétaires rigoureuses, on aurait, de toute façon, tendanciellement une hausse des taux. Donc, c'est raison de plus pour ne pas rajouter du défaut de crédibilité, alors que la BCE est relativement encore crédible par rapport aux autres banques centrales.
Et vous parliez de crédibilité, on se souvient qu'à chaque fois que les taux longs dépassaient les 5% aux États-Unis, Donald Trump disait non, c'est bon, la guerre est terminée, là ça marche plus, quoi. C'est... On est durablement sur le 30 ans au-dessus des 5%.
Oui, parce qu'en fait, non seulement il vient avec des fausses mesures, mais surtout il a détruit sa réputation. Ouais. C'est-à-dire, Scott Bessent, il avait la confiance des marchés financiers parce que c'est un ancien gérant de hedge fund.
Oui, c'était la bulle dans la pièce.
Ouais. Exactement. Mais là, on voit que la crédibilité, elle est perdue. On le voit, même rien qu'au ton des questions qu'il pose les journalistes, il répond complètement à côté, il s'énerve, il parle comme Donald Trump avec des propos complètement injurieux. Il s'est senti obligé d'aller défendre le nouveau patron de la Réserve fédérale qui a fait une performance calamiteuse aux deux premières conférences de presse, en insultant les journalistes, en disant « Bon, mais voilà, maintenant les journalistes, maintenant que la Fed n'est plus là pour vous raconter tout ce qu'elle va faire, etc., oui. Vous êtes perdus, vous savez pas quoi écrire. » Enfin, donc, on a vraiment cette perte de crédibilité qui, à mon avis... Ça peut se calmer après les midterms, mais on sent quand même qu'il y a un peu une panique à la Maison-Blanche parce que le Sénat, maintenant, risque d'être perdu par Donald Trump. Je pense, qui accélère les choses.
On va parler des élections américaines. Dorothée Rouzet, vous qui êtes au Trésor, comment vous regardez la dette américaine?
C'est évidemment un sujet qui est important pour nous, d'abord parce que le marché de la dette de moyen-long terme, c'est un marché mondial. Alors, on parle de la dette américaine, la dette des GAFAM, la dette des États souverains européens. C'est pas des substituts parfaits, mais à la fin, c'est quand même un peu les mêmes investisseurs qui cherchent de la dette de bonne qualité qui prêtent. Et l'offre mondiale d'épargne à long terme, elle est pas infinie. Donc, il y a une question très simple, qui est si on est dans un monde où il y a beaucoup d'offres de titres, la France émet plus de 300 milliards par an entre le déficit et puis les titres qui arrivent à échéance et qu'il faut refinancer. La dette américaine qui est maintenant quasiment les trois quarts des émissions de dette de long terme de toute l'OCDE, donc c'est vraiment le gros du marché. Donc, si leur déficit continue d'augmenter ou ne se réduit pas un peu mécaniquement, ce qui est disponible pour nous est limité, avec en plus, la dette obligataire d'entreprise avec les GAFAM. Alors, c'est pas forcément, on a aussi un substitut parfait à la dette souveraine de ceux qui cherchent de la dette très sûre, mais malgré tout, c'est des montants colossaux d'émissions de dette que font les GAFAM pour financer des investissements dont les rendements ne sont pas assurés in fine. Et donc, tout ça fait que, quand on regarde du côté français, quelque part, raison de plus pour assurer notre crédibilité et réduire autant que faire se peut le déficit, même progressivement, pour limiter notre exposition. Parce que on voit bien du côté américain que le sujet, que ce soit de crédibilité ou de déficit, il ne va pas se résoudre demain.
Emmanuel ?
Je voudrais revenir sur un point qui est vraiment fondamental, parce que pour les économistes, il y a une littérature mais absolument énorme, qui a valu d'ailleurs à ses auteurs le prix Nobel d'économie, qui est Landé Prescott, c'est la notion de crédibilité. C'est super important ce que disait Raphaël tout à l'heure. La crédibilité, d'abord, elle est fondée sur des règles de droit. L'indépendance des banques centrales, c'est juridiquement gravé dans le marbre. Mais en réalité, la vraie crédibilité, c'est pas que les règles de droit, c'est les règles de comportement. Et ça s'appelle la réputation. Et la réputation, c'est un fusil à un coup. C'est-à-dire, il faut dire ce que l'on fait. Regardez Christine Lagarde, là, chaque mot est pesé, sous-pesé. Il faut dire ce que l'on va faire pour ancrer les anticipations. Et il faut faire ce que l'on dit. Mais c'est exactement l'inverse de ce que fait Trump. Il vous dit A le matin, il vous dit l'inverse de A le soir. Et le problème de la réputation, c'est qu'une fois que vous l'avez perdu, alors ça vaut en économie.
Mais j'ai l'impression qu'on a déjà dit ça. J'ai l'impression que ça fait un an qu'on dit ça. Pour l'instant, il n'y a pas de... Ok, les taux montent,
mais... Une fois que vous avez perdu votre réputation, vous ne pouvez pas la retrouver.
Kevin Warsh, c'est très mal parti.
C'est pas possible. La réputation, c'est un fusil à un coup. Une fois que vous avez que vous n'avez pas tenu votre parole, c'est un peu comme dans la vie privée. Une fois que vous avez menti une fois, vous savez, c'est le paradoxe du menteur. Si vous avez menti une fois et vous dites après...
Regardez, les investisseurs, ils ne sont pas en train de...
Les taux longs montent.
Le dollar.
Non, mais Kevin Warsh, c'est intéressant. Sa première conférence de presse, il a voulu jouer Greenspan. C'est-à-dire, Greenspan disait, si vous m'avez bien compris, c'est que je me suis mal exprimé. Donc c'était, on l'avait mis sur un piédestal. C'était un type génial. Quand il parlait, on comprenait rien, mais il était génial. Donc il a tenu un discours totalement sibyllin. Personne n'a rien compris, mais tout le monde était subjugué. La journaliste du Financial Times, elle était toute rouge quand elle lui parlait. La deuxième conférence de presse, il a dit l'inverse de ce qu'il avait dit avant. Il a tenu et là, tous les journalistes disaient, excusez-moi, mais on comprend rien. Donc là, vendredi, les marchés vraiment l'attendent au tournant. Il va parler à Jackson Hole. Je ne sais pas ce qu'il va raconter. Il a donné aucune indication, mais ça va être extrêmement intéressant de voir comment il essaye de retrouver sa crédibilité.
Et je pense que même pour Trump, hein, parce que alors il a peut-être pas eu un fusil à un coup, mais à deux ou trois. C'est-à-dire que les premières fois où il a dit justement les taux s'échauffaient un peu, il a dit non, mais la guerre c'est fini, on va trouver un accord. Les marchés se sont calmés le lendemain.
Bah oui.
Aujourd'hui, bah, il dit quelque chose, il tweet, il ne se passe plus rien. En fait, personne ne le croit. Tout le monde se dit oui, mais il dira le contraire demain. C'est quand même la parole du président du pays le plus puissant au monde. Qui ne vaut plus grand-chose.
Bah, regardez, c'est la même chose pour le protectionnisme, hein, qui est un sujet que je connais bien. Les marchés ne réagissent même plus. De toute façon, ils nous annoncent 15%. Qu'est-ce qui vous prouve que demain, ce n'est pas 10 ou 20? La parole n'a plus de valeur. Mais en économie, contrairement à ce qu'on peut croire, la parole, mais c'est plus important que les règles de droit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de règles de droit, hein, mais si la Banque Centrale Européenne est crédible, ce n'est pas seulement parce qu'elle est juridiquement indépendante, c'est parce qu'on a à sa tête des personnalités, que nous connaissons tous, hein, Draghi, puis Lagarde, qui sont crédibles. Et ils sont crédibles parce que leur discours est crédible. Et tout leur objectif, c'est justement de ne jamais prendre les marchés par surprise. La crédibilité, c'est de toujours dire ce que l'on fait. Alors, oui, mais toujours fait ce
Kevin Warsh, il a bien dit un truc, c'est qu'il faisait plus de la forward guidance, quoi. Et que
oui, alors ça peut
se Il laissait les marchés débrouiller, quoi.
Enfin, il y a la bonne forward guidance et la mauvaise forward guidance. Ah. La bonne forward guidance, c'est quand vous vous liez les mains.
Exact.
Parce que vous, et après, vous osez plus décevoir le marché, vous en avez trop dit, mais surtout, vous êtes engagé sur les marchés financiers. Ça s'était fait après 2008, quand on était arrivé à la limite des taux bas, les taux étaient à zéro, il fallait encore stimuler l'économie parce que ça fonctionnait pas. Et donc, il y avait le paradoxe de la crédibilité qui était que la Banque Centrale devait être non crédible de façon crédible. Mmh. C'est-à-dire, je vais laisser se développer de l'inflation, comme ça, vous allez faire monter les anticipations, et donc les taux réels anticipés vont baisser. Et donc ça, on l'a utilisé. Le problème, c'est qu'ils ont continué à l'utiliser pendant le Covid, en disant, on remonte les taux d'intérêt, on va continuer à faire exploser notre bilan. Et du coup, l'inflation s'est développée, ils ont attendu la fin de 2021 avant de dire non, mais en fait, on va monter les taux d'intérêt. Et c'était trop tard. Donc, Kevin Warsh, qui a été toujours un faucon anti-inflationniste, lui, il a détesté ce moment-là, il a dit avec moi, il n'y aura plus de forward guidance. Mais là, en fait, l'image où les marchés sont complètement perdus, c'est qu'il leur dit, il n'y a plus de forward guidance, je vous laisse faire. Il a dit, regardez, depuis que je suis à la tête de la Fed, les marchés réagissent aux données, et en fait, c'est eux qui jouent, ils n'ont plus besoin de la Fed comme banque centrale, comme arbitre sur le terrain. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que la Fed, elle est la moitié des joueurs sur le terrain. Les marchés financiers comme nous, on est des pions qui ne font que suivre ce que nous dit la Fed. C'est pas la Fed d'être l'arbitre et les marchés font ce qu'ils veulent.
Les marchés décident pas, ils donnent un prix.
C'est la Fed qui contrôle l'offre monétaire, qui contrôle l'inflation. Donc son discours n'a aucun sens. Et en même temps, il commence par dire l'inflation est un choix. C'est un choix de la Banque Centrale. Ça fait 5 ans que la Fed de Powell a fait n'importe quoi. Donc après, pourquoi il dit c'est aux marchés financiers de faire ce qu'ils veulent.
Dorothée. Mais je pense que, aussi sur la forward guidance, c'est différentes manières de voir. C'est-à-dire que dire. Il se passe quand même beaucoup de choses tous les mois, c'est très volatile, donc je veux pas m'engager 3 mois avant sur ma décision 3 mois après, c'est compréhensible. Mais si on regarde ce que fait la BCE, elle fait pas de forward guidance, c'est-à-dire qu'elle ne dit plus à une réunion, voilà ce que je m'attends à faire à la prochaine. En revanche, elle ne dévie pas de sa ligne, qui est de dire, on fait une meeting by meeting, donc on décide à chaque réunion, en fonction des données, et voilà les 3 critères qu'on regarde. Et donc, en fait, ça ancre aussi les anticipations des marchés, parce qu'ils vont avoir les mêmes données dans les 3 mois, ou dans les 1 mois, ou dans les 2 mois entre chaque réunion. Donc, ils vont forger leur anticipation, mais en gros, en connaissant la fonction de réaction de la Banque centrale. Et en fait, c'est pas forcément dire à l'avance quelle sera ma décision, c'est aussi dire, voilà les critères que je regarde, et ça crée, ça fait bouger les anticipations dans le sens qui fait ensuite que la Banque Centrale a en fait moins besoin d'agir parce que les marchés ont en partie déjà fait le boulot pour elle.
Et l'erreur de Warsh, c'est de dire la fonction de réaction ne va pas être la même.
Exact.
Mais ne pas dire ce qu'elle est maintenant.
Mais la crédibilité, ça ne veut pas dire faire toujours la même chose. Être crédible, c'est justement changer quand il faut changer. Enfin, si la règle, c'est de dire quand il y a un feu rouge, je m'arrête, en situation d'urgence, il est raisonnable de ne pas s'arrêter au feu rouge. Mais par contre, il y a des critères très défini ex ante. Donc attention, crédibilité, ça ne veut pas dire je suis complètement myope et je vais dans le mur. Enfin, Draghi, il a su adapter la règle.
C'est un peu ce qu'a reproché quand même à la BCE de temps en temps.
Draghi, il a été crédible quand il a dit on fera tout ce qu'il faut. Vu les circonstances, il fallait faire tout ce qu'il faut.
C'est pas
perdre sa crédibilité. Justement, être crédible, c'est changer la règle quand les circonstances l'exigent, mais c'est pas faire n'importe quoi.
Sur justement ce qui va se passer dans les prochains mois du côté de la Banque Centrale Européenne, on a des anticipations de marché sur une future hausse des taux à nouveau. On avait beaucoup critiqué celle d'avant, Dorothée Rouzé. Là, on part sur ce scénario-là.
Alors, c'est ce qui est, en fait, tout là aussi, hein, il se passe beaucoup de choses sur notamment le front du conflit en Iran. Donc, il faut être assez prudent. Les anticipations de marché, elles bougent aussi en fonction des développements. La question que la BCE regarde, c'est quel est le risque d'avoir une inflation qui dépasse l'inflation purement énergétique et qui se diffuse à toute l'économie et qui sera ensuite plus dure à résorber. Donc, on a à la fois des prix du pétrole qui s'installent à un niveau élevé parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas de perspective de résolution du conflit et de liberté de circulation dans le détroit d'Hormuz, des prix du gaz qui sont aussi orientés à la hausse. Après, sur la transmission au reste de l'économie aujourd'hui, on n'est pas non plus dans une phase de grande expansion de la demande. On voit un peu mécaniquement, le pétrole, ça rentre dans la production d'un peu tout, donc un peu mécaniquement, ça se transmet aujourd'hui assez lentement. Donc je pense que la BCE, elle va surveiller ça. Elle est quand même assez prudente dans sa communication, mais ça va être un peu le critère. La dernière fois, à la fois, on lui reproche de toute façon tout et son contraire. Hein, donc on lui reproche de réagir à l'inflation énergétique quand elle est énergétique, on lui reproche de réagir trop tard quand elle n'a pas réagi plus tôt. Donc je pense qu'il faut, voilà, il faut un peu faire abstraction des critiques qui seront de toute façon là.
La question, c'est qu'elle a encore ce montant.
Qu'est-ce qu'elle va regarder? Elle regarde les perspectives de désancrage des anticipations d'inflation. Elle regarde ses perspectives d'inflation à 1 an, 2 ans. Et elle décide en fonction.
Tout pays veut toujours que les taux baissent. C'est la base. On veut toujours que
ça soit... Oui, mais il ne veut pas d'inflation.
Absolument, Raphaël.
Après, un point important pour nos auditeurs, taux court, taux long, il y a plein de débats entre économistes. Il n'est pas évident qu'il y ait des relations entre les deux. On peut avoir des phases d'inversion de la courbe des taux. Ce n'est pas parce que les taux longs montent que les taux courts doivent monter. Enfin, il y a plein de théories économiques qui vous démontrent que soit il y a une relation entre les deux, via le canal des anticipations, les taux longs étant jamais que les anticipations des taux courts futurs, soit les deux marchés sont complètement déconnectés. Donc attention, taux directeur, parce que la BCE, elle influe sur les taux à très court terme, c'est pas la même chose que les taux à 10 ans, 20 ans, 30 ans. Enfin, il y a débat, en tout cas, sur les économistes, sur quelle relation entre l'intervention de la Banque centrale et les taux longs. À mon avis, les taux longs, ils sont quand même déterminés structurellement par l'offre mondiale d'épargne, ce qu'on disait tout à l'heure, et la demande mondiale d'investissement. Alors, comme tout le monde veut investir dans les GAFAM, ça fait structurellement monter les taux, BCE ou pas BCE.
Raphaël, on a aujourd'hui une inflation qui crépite ou pas du tout?
Je pense qu'on a une inflation qui est persistante, parce qu'on voit que ce sont les éléments non core, c'est-à-dire c'est des supply shocks, on a des chocs d'offres négatifs qui sont en série, qui sont corrélés et qui de toute façon sont persistants. Et donc les entreprises et les ménages vont s'habituer à ce qui est une transmission de ces chocs le long de la chaîne des prix. Et donc c'est pour ça que la BCE a raison d'être vigilante là-dessus et elle a raison d'être proactive. Et je pense que la BCE a fait un très bon travail de crédibilité en assurant la transparence de sa fonction de réaction, comme disait Dorothée, en disant voilà, on a des scénarios, comment on se situe par rapport à ces scénarios, par rapport à telle donnée, etc. Et donc je pense qu'ils ont été des bons gardiens du temple. Et par rapport aux autres pays développés, je pense que justement la BCE assure un ancrage nominal. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que le Japon perd sa crédibilité inflationniste, les États-Unis commencent à le faire aussi. Et donc, dans ce monde-là, l'ancrage nominal, où est-ce qu'il peut venir? Et on le voit, le message quand on voit l'or qui se met à jumper comme il le fait, le Bitcoin qui revient, etc., c'est qu'on est dans un monde qui est en train de perdre son ancrage inflationniste. Et donc, le paradoxe de l'euro, c'est qu'on a une banque centrale qui est crédible, on a cet ancrage nominal qui pourrait être assuré, mais... En même temps, on a les fiscal sinners, on a les pêcheurs budgétaires, je dirais, comme la France et l'Italie.
Mais parce que tout ça, c'est des avantages comparatifs positifs que vous nous dites finalement la zone euro.
Mais on sait très bien que la Banque Centrale Européenne, un jour ou l'autre, elle sera obligée de monétiser des dettes publiques si vraiment on perd la confiance.
Ça veut dire quoi, monétiser des dettes publiques?
Justement, que les marchés nous obligeront. On fera le whatever it takes de Draghi une deuxième fois. C'est-à-dire si.
De racheter,
si,
quoi. De faire du QE.
Si on a une nouvelle crise souveraine qui se présente, et que cette fois-ci, c'est la France, si on va vers ce scénario-là, la Banque Centrale Européenne sera obligée de monétiser, ou sinon c'est l'explosion de l'euro. Donc c'est ça le paradoxe, c'est qu'en fait, l'euro pourrait être le nouvel ancrage nominal de l'économie mondiale, mais il ne peut pas l'être parce que l'euro est une espèce de Frankenstein budgétaire qui n'a pas cette autonomie.
Gardez tout ce que vous avez envie de dire, Emmanuel. Il est 9h58, je vous coupe en plein élan. Vous ne bougez pas, on revient dans les experts.
BFM Business et la Tribune présente Débat controverse. Les experts.
Il est 10h01 sur BFM Business. Les experts aujourd'hui, c'est avec Dorothée Rouzet, avec Emmanuel Combe et avec Raphaël Gallardo. On était en train de discuter de la dette européenne avec cette possibilité, si jamais la France se retrouvait en difficulté, de la Banque Centrale Européenne de racheter des titres de dette. Elle l'a déjà fait
faire un QE, nous soutenir. Il n'y aurait que ça à faire, Dorothée Rouzet. On ne pourrait pas faire défaut. La Banque Centrale Européenne serait là.
Oui, je pense d'abord, il ne faut pas s'exciter. Hein. Encore une fois, aujourd'hui, on n'a aucun problème pour lever de la dette. On fait des adjudications.
Un jeudi sur deux, à 11h, ça se passe bien.
Un jeudi sur deux, et ça se passe bien. Et il y a de la demande, et notre dette est très prisée des investisseurs. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus commencer à rentrer dans ces espèces de scénarios catastrophes. Est-ce qu'il y a des outils, le QE, l'outil existe. Après, c'est censé être un outil de politique monétaire, pas un outil de bail-out d'un État qui n'a pas fait le job sur ses finances publiques. De toute façon, toute intervention de la BCE ne serait pas sans conditions de programme de réforme, de rigueur budgétaire, etc. Autrement plus compliqué que les mesures dont on discute aujourd'hui. Enfin, quand on regarde ce qu'ont fait la Grèce, l'Italie, le Portugal, etc., on parle de baisse conséquente des retraites, oui, des pensions, des salaires des fonctionnaires. Donc on parle de mesures très, très drastiques.
On parle de la vraie austérité.
On en est bien dur. Pas du tout là, donc c'est pour ça que je suis un peu réticente à rentrer dans les scénarios catastrophes et si, que ferait. Mais justement, l'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on a encore un capital confiance. On a encore un capital confiance à condition que la trajectoire de notre déficit, même si c'est graduel, ce soit à la baisse. Oui, alors cette année, il y a la crise en Iran, c'est compliqué, mais en gros, on est des plans qui nous fassent baisser graduellement notre déficit vers un niveau soutenable. Et on a, je dirais, un certain capital crédibilité sur le fait que ça peut prendre un peu de temps, à condition que la direction reste la même. Je pense que c'est ça qu'il faut pas éroder, en fait.
Même pas un plan drastique, avant de commencer une direction.
Avant de commencer à se dire, ah oui, mais finalement, on pourrait avoir la carte joker, que ce soit la BCE, brûler la dette, etc.
Emmanuel.
Pour rebondir sur ce que disait Dorothée, on lève la dette sans problème, il faudrait pas que les auditeurs se disent, bon, bah, alors du coup, il n'y a pas de sujet. Il y a quand même un sujet,
c'est que
notre première dépense,
notre
première dépense aujourd'hui, c'est quand même les intérêts. Oui. On paye à nos résidents et donc il faut raisonner en coût d'opportunité. Je sais plus combien, c'est 68 milliards ou 70 milliards de taux d'intérêt chaque année. C'est 70 milliards qui sont pas investis dans l'éducation, dans l'innovation. Enfin, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Moi, je crois qu'en effet, à la thèse de l'étouffement, c'est-à-dire la France est un pays qui s'étouffe progressivement, mais on n'est pas en situation de crise de la dette. Mais à l'inverse, voilà, il faut pas envoyer non plus le signal qui est de dire, bah, puisqu'on lève tous les jeudis ou tous les 15 jours ou tous les mois de la dette, il n'y a pas de sujet. Si, il y a un sujet. Puis il y a un deuxième sujet, c'est que pour l'instant, on n'a pas l'effet boule de neige. Enfin, si j'en crois les scénarios de certains auteurs, hein, on y va droit. Hein. Donc l'effet boule de neige, c'est dès lors que le taux d'intérêt devient supérieur à votre taux de croissance, on va y arriver un jour. Là, la dette va commencer à augmenter de manière significative. Je crois que dans la dernière étude, c'était Jaravel, on était à 130% en 2030 si on ne fait rien. Alors vous me direz, 130%, le Japon, ils sont à combien? 200, 250? Il n'y a pas de norme absolue qui nous dit qu'à partir de 130, ça devient grave. Mais les marchés regardent quand même une trajectoire. Il y a une trajectoire. Il faut surtout raisonner en termes de coût d'opportunité. Tout cet argent qu'on paye en intérêt, il serait quand même mieux utilisé pour préparer l'avenir.
Il faut aussi, juste sur ce point-là, hein, savoir que la maturité moyenne de la dette française, c'est environ 8 ans et demi. Donc, et de toute façon, dans les années à venir, quoi qu'on fasse, le coût de la charge de la dette va augmenter. Pourquoi? Parce que, par exemple, là, aujourd'hui, on réémet des titres quand ceux qui arrivent à échéance, c'était ceux qui ont été émis soit dans les années 2010 en plein quantitative easing, donc avec des taux à zéro, soit pendant le Covid avec des taux proches de zéro. Donc de toute façon, quoi qu'on fasse, si on réémet à 4% des titres qui arrivent à échéance et qui étaient à zéro, mécaniquement, quoi qu'on fasse sur le déficit, le coût de la charge de la dette, il va augmenter vers 90-100 milliards d'ici la fin de la décennie. Donc là aussi, il ne faut pas, en rajouter une couche en termes de crédibilité. Mais il y a un effet, très mécanique d'inertie qui fait qu'on peut agir sur l'inflexion de ce budget à horizon 5 ans, 10 ans, mais il y a une partie qui est déjà prédéterminée.
Mais c'est important, Raphaël, de dire qu'on n'a pas forcément besoin de quelque chose de drastique. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin du sang, des larmes, de passer tout de suite à quelque chose de radical. C'est la trajectoire qui importe, notamment les marchés.
Ils ont besoin d'un cap.
C'est ça.
Et comme disait Emmanuel, en fait, c'est de la crédibilité budgétaire.
Et c'est ce qu'on vend.
Moi, ce qui m'étonne depuis plusieurs années, c'est que le marché continue de nous faire cadeau de cette crédibilité budgétaire, alors qu'on donne, dans notre comportement, on donne aucun signal.
Le marché est très gentil.
Il y avait un économiste qui avait créé la règle de Bohr, c'est-à-dire comment un pays réagit par rapport à la dérive de ses comptes publics. Et on voyait que la France, on avait un coefficient négatif, c'est-à-dire il n'y avait pas d'autocorrection de notre déficit primaire. C'est-à-dire quand on avait un déficit primaire qui dérivait, ben, historiquement, les pays étaient sous la pression des marchés, étaient obligés de se corriger. La France, il n'y avait statistiquement aucune réaction. Et c'est ça la problématique. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où vous avez un déficit américain à 6 points de PIB, la France à plus de 5. Tous ces pays, plus les hyperscalers...
Mais pourquoi? C'est notre capacité à lever de l'impôt qui nous protège.
Oui, mais c'est surtout surtout que on a des gros emprunteurs sur le marché qui aujourd'hui sont complètement insensibles au prix. C'est-à-dire on leur demande de payer plus cher leurs dettes, mais c'est pas pour autant qu'ils vont changer leur comportement. Les États-Unis ont annoncé aucune mesure budgétaire crédible. La France ne le fait pas. Donc forcément, les taux d'intérêt vont continuer à monter jusqu'à ce que les politiques et les grandes entreprises de la tech comprennent le signal. Mais aujourd'hui, on a besoin d'avoir des taux d'intérêt plus élevés pour continuer à ce que les États et la Big Tech continuent de squeezer l'économie.
Mais il y a un seuil psychologique, et j'imagine qu'il n'y a pas un seuil officiel, il y a un seuil psychologique, on dit, je ne sais pas, à 5%, on déclenche des réformes. Il y a un truc qui...
Non.
Parfois, on parle des 5% avec le 30 ans américain.
Il n'y a pas de seuil psychologique. Je pense qu'il y a surtout des apprentis sorciers comme Scott Bessent qui essayent de contourner le système en disant, bon, finalement, si la dette à long terme coûte trop cher, je vais émettre à court terme. Mais ça peut lui sauter au visage. Parce que s'il va faire de l'effet d'éviction sur la partie courte, c'est-à-dire sur la partie courte, en fait, c'est le Trésor américain qui va émettre de la dette, il va y avoir un effet d'éviction sur justement les hedge funds qui, au contraire, eux, s'endettent à court terme pour acheter de la dette à long terme. Donc, en fait, il y a des fausses solutions et ces fausses solutions pourraient précipiter une crise financière à un moment.
Alors, je voudrais revenir sur l'idée que vous disiez tout à l'heure, Laure, on n'a pas besoin d'une thérapie de choc. Bah, parfois, on se demande ce que ça serait pas mieux, parce que l'inverse de la thérapie de choc, c'est l'effort soutenu.
Excuse-moi, je me refuse à souhaiter une crise financière.
Non, j'ai pas dit ça. C'est que le contrefactuel, enfin, l'autre alternative, c'est l'effort soutenu sur 5 ans. C'est-à-dire, on va dire 30 milliards d'euros par an fois 5, ça fait 150 milliards. Pardon, on en est incapable. On en est incapable parce que ça veut dire qu'il faut prendre des engagements sur plusieurs années. Quel gouvernement est capable de prendre un engagement, surtout s'il y a de l'instabilité politique? Donc, en même temps, on peut dire oui, on n'a pas besoin d'un choc, mais l'alternative, je ne la vois pas. Enfin, on est quand même dans des mesures à l'année, on n'est pas sur des plans. Enfin, quel gouvernement a tenu sa promesse sur son mandat? Aucun. Soit en invoquant des causes exogènes, soit parce qu'il y a eu une alternance politique, etc. Donc, en même temps, la politique des petits pas, on a l'air de dire, bah, finalement, c'est pas trop compliqué, c'est super compliqué, les petits pas, parce qu'il faut jamais faire de retour en arrière. Et ça, on n'a jamais été capable en 50 ans. Donc, je dis pas que la thérapie de choc, c'est bien. Je dis, au moins, la thérapie de choc, c'est quoi? On subit le truc one shot, et puis ensuite, on redémarre. Moi, je vais être très pessimiste, hein, je ne veux pas être trop long, mais c'est mon côté économie politique de la dette. Hein. Je pense que les gouvernements n'ont jamais intérêt à s'engager sur l'avenir, parce que l'avenir, ils ne seront pas forcément là. Par contre, ils laisseront de la dette à leurs successeurs.
Ouais,
c'était Ronald Reagan qui disait, ma meilleure réussite, c'est mon déficit budgétaire, parce que si les démocrates arrivent au pouvoir, ils seront plombés.
Ouais. Mais bah, enfin, je trouve que justement là-dessus, la crise financière qu'a connue le Royaume-Uni en septembre 2022 sous Liz Truss, ça a vacciné tout le monde pour 10 ans.
Bah
regardez,
oui.
Tous les chanceliers, les chanceliers de l'échiquier aux États-Unis sont tétanisés par les marchés financiers. Et donc la discipline, elle marche. Et donc ils sont en train de faire des réformes. Ils sont en train de faire de l'austérité pour éviter d'avoir une crise plus grave. Plus on attend, plus la thérapie de choc, quand elle sera nécessaire, sera douloureuse.
Mais ça fait dire après Jean-Luc Mélenchon que vous êtes tenu par les marchés financiers, c'est-à-dire que...
On est tenu, on n'avait qu'à pas s'endetter pendant 50 ans.
Heureusement, heureusement qu'ils sont là.
Je voudrais qu'on vienne sur les États-Unis, Raphaël, parce que pour ceux comme moi qui n'ont pas suivi l'actualité américaine pendant l'été, Donald Trump est toujours bas dans les sondages, il y a toujours un risque très important pour lui pour les mid-termes.
Oui, on voit dans les sondages qu'on commence à toucher l'os, c'est-à-dire la base MAGA. Souvenez-vous, j'avais dit sur ce plateau que la base MAGA, c'est pas un parti politique, c'est une secte. Quoi que fasse Donald Trump, on a l'impression qu'il s'en fichait complètement. Ce serait Trump jusqu'à la mort. Là, c'est en train de s'effriter. Quand on parle avec des conseillers du Congrès côté républicain, ils disent on commence à avoir très peur, notamment parce que il y a des États très très rouges qui commencent à virer, notamment l'Iowa, un État agricole. On peut pas faire plus. Trumpland que ça, en fait, il pourrait basculer au Sénat. Et donc, la Chambre, on sait que c'était perdu d'avance. Mais par contre, le Sénat, on pensait qu'il resterait.
Ouais.
Mais en fait, là, ça devient... par exemple, Nate Silver, qui fait plein de modèles à partir des sondages, donc il retravaille tous les sondages. Dans le modèle de Nate Silver, le Sénat passe démocrate. Et donc, c'est ça qui a créé ce vent de panique à la Maison Blanche, qu'on a obligé Scott Bessent de trouver une solution pour faire baisser les taux d'intérêt, parce que c'est pas que le problème budgétaire, c'est aussi le problème des taux hypothécaires, les fameux taux mortgage. Mm-hmm. Donald Trump ne peut pas arriver au mid-terms avec le prix de l'essence au-dessus de $4, le diesel au-dessus de $5 et les taux hypothécaires au-dessus de 7%. C'est pas possible. Mais on voit que malgré tout, il n'y a pas vraiment de cap à la Maison Blanche, parce que les quatre plus gros États swing states pour le Sénat, C'est l'Alaska, le Maine, l'Ohio et le Michigan. C'est tous des États limitrophes du Canada. Et qu'est-ce qu'on fait? On blow up complètement les négociations commerciales avec le Canada. On va se retrouver avec des tarifs dans tous les sens. Donc c'est catastrophique politiquement. Mais ils ont sauté à pied de joint dedans.
Ce qui veut dire impeachment?
Alors, il y aura un impeachment, c'est certain. Par contre, il y aura une condamnation au Sénat. Et ça, c'est quand même difficile parce qu'il faut 67 sénateurs. Donc, il faudrait retourner à peu près une quinzaine de sénateurs républicains. Mais voilà, à partir du moment où le Sénat bascule dans une majorité démocrate, il y aura beaucoup de sénateurs républicains qui sont en fin de carrière, qui vont dire à quoi ça sert de continuer à noircir notre héritage soutenant ce type qui nous fait perdre toutes les élections.
Lionel,
moi, je pensais à une fable. C'était pas Clinton qui avait dit « It is economics so stupid ». À la fin des fins, vous avez beau être MAGA, vous avez aussi un portefeuille. Non, je trouve que c'est hyper intéressant parce que cette idée que, oui, Trump est perçu par ses plus fervents supporters comme le défenseur face à la Chine, etc. Mais il y a un moment, vous regardez quand même...
Le pari économique est perdu.
Bah pour moi, il est perdu. Mais c'est intéressant parce qu'il y avait un travail de David Autor qui montrait que les États qui étaient victimes du protectionnisme de Donald Trump votaient Donald Trump. Mais il arrive un moment où il y a un principe de réalité quand même. Même chose avec Jean-Luc Mélenchon. Si on met en œuvre ce qu'il propose, au bout d'un moment, les Français, on va taper dans leur épargne. Moi, je veux bien qu'on adore les grands discours et les grandes choses. Mais à la fin des fins, il y a de l'économie réelle. Hein. Et finalement, ce que vous dites, Raphaël, c'est que le réel revient. Je veux dire, on a beau le nier, les droits de douane, ça fait monter les prix. Alors, ça fait pas monter les prix tout de suite, parce que c'est absorbé, etc. Surtout avec le Canada. Qui va payer la facture avec le Canada? Ça va être les Américains. Ils importent de l'aluminium, c'est une élastique au prix. Ils importent du pétrole, c'est peu élastique au prix. Enfin, bref. Donc, en réalité, ce sont bien les Américains qui vont payer la facture. Et à la fin des fins, vous avez beau être MAGA, vous regardez quand même ce qui vous reste à la fin du mois.
Dorothée, votre vision sur les États-Unis?
Non, mais je partageais ce qui vient d'être dit. En fait, Donald Trump, faut se rappeler quand même qu'il a été élu sur une campagne qui mettait l'accent sur Biden, c'est l'inflation. Qui, sur le plan de la politique étrangère, disait aussi plutôt de l'isolationnisme, pas d'aventure militaire au Moyen-Orient, etc. Donc, c'est vrai qu'on arrive 2 ans après, il y a une dimension très identitaire au vote Trump, hein, la base MAGA, mais effectivement, elle a aussi entendu Biden, c'est l'inflation, le prix du logement, le prix de l'essence, le prix de l'alimentation, etc. Or, quels ont été les points phares de la politique de Trump? Les droits de douane, in fine, c'est inflationniste. Et au départ, sur le Canada, il avait exempté le pétrole, il avait exempté le bois, donc en décembre, ils avaient exempté les voitures. Donc, en gros, le modèle, c'est quand même que les pièces, etc., traversent la frontière beaucoup de fois, en fait, avant d'en faire une voiture. Donc, évidemment, si vous avez un droit de douane à chaque fois, ça s'additionne assez vite. Donc ça, c'est le premier pilier, les droits de douane, c'est inflationniste. Deuxième pilier, la guerre en Iran, au-delà de l'aspect politique étrangère qui trahit un petit peu quand même ce qu'il avait dit une partie de sa base, ça se voit très vite sur les prix à la pompe, qui sont le prix le plus visible pour tout le monde ici comme ailleurs, hein, quand même, vous êtes allé partout, vous avez le truc, il est affiché devant vous.
C'est un des seuls prix qu'on a.
C'est impossible de pas le voir. Quoi.
Qu'on voit en 4 sur 3.
Voilà, tous les jours. Troisième pilier, grosse restriction sur l'immigration, y compris l'immigration non qualifiée, qui fait monter aussi les prix des services à la personne, de hôtellerie-restauration, de l'alimentation aussi, parce que c'est ceux qui récoltent, etc. Donc, en fait, c'est vrai que c'est difficile d'arriver au mi-terme en disant ce pourquoi vous avez voté, au-delà de la partie très identitaire, ce pourquoi vous avez voté en 2024 en disant Trump mettra fin à l'inflation, le mot d'ordre, c'était « affordability ». On a un peu de mal à voir comment réconcilier le discours et la pratique.
Parce que Raphaël, vous disiez, c'est impossible, il peut pas aller aux élections mid-term avec un tel bilan. Patrick Pouyanné disait hier dans une conférence qu'il a donnée avec d'autres producteurs de pétrole, il disait, c'est impossible. Le gallon, il sera à $4, ça va pas baisser, c'est pas possible.
Oui, on a une crise
sur la raffinerie. Voilà, sur le raffinage, on n'y arrive pas. Donc, il va aller au mid-term avec le bilan que vous avez.
Oui, mais c'est pour ça l'histoire est en train de accélérer, qu'on essaye d'étrangler l'Iran économiquement, mais pour le moment, rien n'est crédible. Le fait que Trump avait déjà sanctionné les banques chinoises, il avait menacé de les sanctionner au mois de mai. Les Chinois ont dit, ils ont fait une directive, interdiction aux banques chinoises de suivre les directives américaines sur leur contrepartie avec l'Iran. Donc, je vois pas Scott Bessent sanctionner la plus grande banque chinoise, la plus grande banque mondiale, ICBC. Mais il a dit, la semaine prochaine, vous verrez, il y aura une grande banque qui sera sanctionnée. Je pense que ça n'aura pas d'impact, parce que ça veut dire mettre des sanctions secondaires contre la Chine à un moment où Trump, le truc vraiment auquel tient Trump, c'est maintenir la trêve commerciale avec la Chine. Il a une visite d'État de Xi Jinping en septembre qui arrive. Donc,
J'irais même plus loin, si on fait le bilan de Trump, c'est quand même son obsession depuis le départ, depuis Trump 1, c'est la Chine. Je pense même, je l'ai écrit d'ailleurs dans Les Échos, c'est qu'il a accéléré la montée en puissance de la Chine, notamment technologique, en mettant des restrictions à l'exportation à court terme. Vous handicapez la Chine, mais c'est une formidable incitation à accélérer. Regardez, c'était la news dont on a appris cet été, la première machine de gravure de semi-conducteurs qui est sortie en Chine. En mettant des restrictions aux exportations d'ASML en Chine, vous incitez. Donc, même sur ce point-là, où c'était quand même son argument de Trump 1, hein, c'était je vais mettre fin au choc chinois. Même là-dessus, il a échoué. En réalité, la Chine n'a jamais été une puissance technologique aussi forte. Donc, même là-dessus, il a échoué.
Mais à la fin, Raphaël, ça veut dire qu'il faut toucher aux contraintes budgétaires. Ça veut dire quoi? Il faut aller chercher l'argent chez les GAFAM? Qu'il faut...
Le problème des États-Unis,
faire trouver de l'argent, en fait.
Ouais, le ratio qui est terrifiant pour les États-Unis, c'est que la charge d'intérêt rapportée aux revenus budgétaires fédéraux, c'est 20%. Donc c'est le niveau d'un pays... c'est pas un pays émergent, c'est un pays frontière, ce qu'on appelle. Pourquoi? Ben, la charge de la dette explose, parce qu'en plus, ils ont une dette très courte. Contrairement à la France, ils la renouvellent très vite, ils la raccourcissent de plus en plus. Et puis surtout, chaque fois qu'on a une administration républicaine qui arrive, on baisse les impôts, on baisse les impôts, on baisse les impôts. Donc, ils ont de la marge de manœuvre pour augmenter les impôts. Ça fait à peine 20% du PIB, hein, par rapport à nous. Vous imaginez la marge qu'ils ont. Mais augmenter les impôts, c'est, effectivement, c'est casser la dynamique boursière, qui est ce qui permet encore d'avoir une dynamique de consommation aux États-Unis. La seule dynamique de consommation qui reste...
C'est ceux qui ont des actions, Nvidia, quoi.
C'est l'effet richesse. C'est l'effet richesse. Et c'est certainement pas le moment de le faire, parce qu'on a parlé de l'échéance des midterms à court terme. Il y a la visite de Xi Jinping en septembre, les midterms en novembre, et au milieu, il y a l'IPO d'Anthropic. Et il ne faut pas rater ça, parce que sinon, on risque de perdre la guerre technologique face à la Chine. Donc, en fait, il faut absolument maintenir à la fois cette course, cette fuite en avant budgétaire, mais aussi cette course aux armements dans l'IA, parce que l'IA, ce n'est pas juste un enjeu économique, c'est aussi un enjeu géostratégique.
IPO d'Anthropic, évidemment, très attendu. On a appris quand même cette semaine qu'on allait avoir de la pub sur ChatGPT qui change de modèle, qui a besoin de rentabilité. Il faut de l'argent. C'est plus possible d'avoir des gens qui font des demandes gratuites.
Dans la vie, la gratuité n'existe pas.
Oui, il y a toujours quelqu'un qui paye. Sinon, c'est peut-être le produit.
C'est toi le produit. Donc, il y a deux modèles. Hein. Soit un modèle, ce qu'on appelle un marché biface. Hein. C'est le modèle Google Search. On surfe jusqu'à présent gratuitement sur Google Search. Mais ce sont les annonceurs qui financent le modèle. Soit dès le départ, on décide que c'est un modèle payant. Et en fait, ChatGPT a opté pour un modèle, je dirais, de freemium. C'est-à-dire, si vous avez l'abonnement gratuit ou d'entrée de gamme, là, il y aura de la pub. Par contre, vous avez le choix de ne pas avoir de publicité. À ce moment-là, il faut payer le plein pot. Ce qui va être intéressant dans ChatGPT, c'est de voir est-ce que ça remet en cause Google ou pas. Parce que vous êtes annonceur. Jusqu'à présent, vous allez faire de la pub sur Google Search. Les petits liens qui sont tout dédiés. Aujourd'hui, ça peut être intéressant pour un annonceur d'aller faire de la pub sur ChatGPT. C'était lundi en Europe. Hein. Et en même temps, Google est en train de renforcer, à mon avis, Google Search en intégrant l'IA dans son propre modèle avec IA Overview, etc. Ça veut dire que demain, vous serez un annonceur, vous ferez de la publicité, peut-être même d'ailleurs dans la réponse que vous donnera IA Overview, c'est-à-dire vous tapez, je ne sais pas, shampoing, et on vous dira, bah écoutez, dans la réponse du shampoing, il y a un sponsor qui a payé pour être soit dans la réponse elle-même, soit être à côté de la réponse, identifié de manière claire. En Europe, il n'est pas possible, dans la réponse, de sponsoriser. Par contre, on pourra tout à fait imaginer que dans Google Overview, vous ayez de la publicité à droite. Donc ça va être intéressant de voir est-ce que ça renforce le modèle Google, ou est-ce qu'au contraire, la concurrence de ChatGPT va l'affaiblir. Mais tous les IA n'ont pas le modèle à la ChatGPT. Hein. Claude, c'est un modèle payant. Hein. C'est gratuit, mais vous êtes contraint en quantité, ou alors vous passez à différents abonnements. Donc ça va être vraiment intéressant de
comme
voir...
Comme sur ChatGPT. Hein.
Oui, ils n'ont pas tous le même modèle. Certains ne croient pas au marché biface. Parce que le problème du marché biface, c'est qu'une fois que vous avez décidé d'opter pour un marché biface, c'est très difficile de revenir sur une face. Regardez Meta. Insta, c'était gratuit. Jusqu'au jour où il y a eu le DSA, le DMA, et là ils ont dit, bon ben, maintenant on demande le consentement, donc il y en a qui vont dire non, ben, s'ils disent non, on va les faire payer. On a tous reçu cette fameuse capture d'écran en disant bah, soit vous acceptez de donner vos données, soit c'est 9,99 €. Bah, en fait, ça marche pas. Enfin, ils savaient très bien que ça allait pas marcher, qu'on allait tous accepter de donner nos données, sauf que c'est contraire au DMA. Et c'est pour ça que Google s'est pris une sanction de la commission, pardon, pas Google, Meta, de la Commission européenne. Donc c'est vraiment intéressant. Ça pose la question, est-ce qu'on peut tout le temps avoir des marchés biface? car c'est important pour nos auditeurs. On pourrait imaginer un autre modèle. Après tout, ça vous choque pas de payer chaque mois votre abonnement de téléphone portable. Pourquoi on paierait pas un abonnement à Google? Il y en a un abonnement à Google Search. Ils ont fait un autre choix, qui est le choix du marché biface. D'autres pensent qu'il vaut mieux faire payer dès le départ.
Raphaël, il faut là commencer à être rentable sur les modèles d'intelligence artificielle. On peut pas continuer comme ça à perdre des milliards et des milliards.
En fait, on voit que le secteur de la tech est en connivence avec le secteur financier pour continuer à leur apporter du capital et à repousser l'échéance à laquelle ils seront rentables. Il y a deux phénomènes intéressants. Je trouve qu'il y a Nvidia qui est en train de transformer en fait les chips, donc ces puces, en actifs comme de l'immobilier. C'est-à-dire on peut avoir des bonds, des obligations et qui sont backés par ces actifs-là. On crée des ABS et justement la SEC. Donc le gendarme de la bourse américaine a dit effectivement vous avez même le droit de le faire pour les data centers. Donc on essaye de favoriser en fait de démocratiser cette finance un peu comme on l'avait fait avec les subprimes,
bah oui,
pour la disséminer un peu partout. Et vous avez de notre côté le financement par le crédit privé où là on voit qu'effectivement les Apollo, les KKR en fait se sont rapprochés des assureurs américains, ils les ont absorbés en partie et comme ça vous n'avez plus en fait de barrière d'analyse de la solvabilité entre les canaux de distribution du crédit privé et les allocataires d'actifs à long terme parce que ce sont les mêmes actionnaires derrière. Donc tout ça c'est pour essayer de prolonger effectivement ce cycle d'investissement et derrière vous avez la Maison Blanche qui essaye de limiter la hausse des taux d'intérêt. À un moment, effectivement, les taux d'intérêt, il y aura un retour à la réalité, à savoir quel va être le taux de rendement interne de ces investissements. Le marché, le modèle du gratuit, c'est quand même limité parce que le marché de la publicité, c'est un trillion de revenus. Ça peut pas légitimer des investissements.
Ouais. Qui font que ce soit les boîtes qui payent et qui gagnent de la productivité. Quoi.
Exactement. Ouais. Donc il faut le voir. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans les marges bénéficiaires des entreprises. C'est que la productivité, elle explose aux États-Unis, mais c'est concentré dans le secteur de la tech. Et justement, les secteurs qui étaient censés utiliser cette technologie, en fait, ils gardent des marges élevées, mais elles n'ont pas augmenté. Pour l'instant, la charge de la preuve, ça reste plus un pari qu'une réalité sur la rentabilisation.
Juste avant de vous faire réagir, Dorothée, des ABS sur des puces, aujourd'hui, il y en a beaucoup?
C'est en train d'être mis en place.
Ça n'existe pas encore aujourd'hui, mais ça va exister.
Oui, parce que Nvidia a dit, effectivement, le taux d'amortissement, c'est à peu près 13% dans la tech. Mais ils disent, regardez, on a des générations, vous revenez trois générations en arrière, les ampères, etc., des modèles qui datent de 2010, vous avez une cotation de leur prix, ils sont encore disponibles à la location, et en fait, il y a encore des rendements dessus. Donc, ils disent, en fait, ces actifs ont une durée de vie longue. Donc en fait, on n'est pas obligé de dire s'ils ont leur client qui veut acheter ces puces-là, il peut en fait les acheter sous forme d'ABS, comme une société qui achète des avions en leasing, etc.
Mais Dorothée, on peut perdre cette course à la rentabilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si les investissements ne trouvent pas le bon chemin, si on n'accélère pas sur ce modèle à trouver, il y a trop d'investissements, puis il n'y a plus de rentabilité, puis le château de cartes s'effondre.
C'est le risque, c'est le risque financier. Aujourd'hui, les marchés boursiers américains sont quand même portés par l'IA. Avec des énormes investissements, des perspectives de rentabilité. Je pense qu'il y a plusieurs questions. D'abord, est-ce que tout le monde va gagner? Probablement pas. C'est-à-dire que tous les hyperscalers qui sont lancés dans cette course mettent des centaines de milliards de dollars. À la fin, tous les modèles ne seront pas le modèle gagnant. Mais ils savent qu'ils sont dans une course un peu winner take all et qu'il faut donc mettre le max d'investissement pour être en tête. Et on voit aussi que la tête, elle change vite. Par exemple, en fin d'année dernière, tout le monde utilisait ChatGPT et trois mois après, tout le monde utilisait Claude. Et ça peut encore s'inverser. Donc en fait, ils sont tous lancés dans cette course, mais il y en a pour qui les investissements qui ne seront pas à la fin celui qui gagne. Mais il y a quand même.
Mais ça, c'est presque le fonctionnement normal des marchés. Il y en a qui perdent.
Après, il y en a qui perdent. Voilà.
Mais à un moment donné, il faut quand même un qui gagne.
Le risque là aussi, c'est déjà, il y a beaucoup, de plus en plus de financements un peu plus opaques, la dette privée, etc. C'est un peu consanguin aussi. C'est-à-dire qu'entre les GAFAM, Nvidia, etc., ils se financent les uns les autres. Donc si une partie du château de cartes s'effondre, ça fragilise le reste. Et puis l'autre question aussi, c'est où va être cette rentabilité? C'est-à-dire, si on suppose qu'in fine, il y aura des gains de productivité importants dans le reste de l'économie, qui va capter cette valeur? Donc ça peut être le producteur de l'IA. Et aujourd'hui, un peu, c'est le pari qui est fait. C'est-à-dire, alors oui, il y a le modèle avec pub, sans pub. Ils ont un peu tous quand même été sur, même quand le particulier paye, si vous payez votre abonnement, vous ne payez pas le vrai prix. Mais le fait que beaucoup de gens l'utilisent leur sert à continuer à entraîner le modèle pour continuer à faire la course. Sur les particuliers, c'est un peu ça le modèle. et avec l'idée que la rentabilité, elle va plutôt se faire sur les applications d'entreprise, y compris sur les modèles spécialisés. Mais en fonction de la structure du marché, la valeur, elle peut être plus captée par ceux qui produisent le modèle ou plus captée par ceux qui les utilisent. Et c'est aussi quelque part ce qu'espèrent les entreprises de tout le tissu économique et n'est pas la tech, qu'une partie de la valeur, elle va être pour elles et pas seulement parce que quelqu'un aura gagné la course technologique, aura verrouillé le marché et donc pourra beaucoup augmenter ses prix. Mais ce jeu-là, aujourd'hui, il est assez ouvert. Ça va être une question de concurrence et ça va être une question de course technologique.
Emmanuel, il nous reste 2 minutes.
Non, c'est pour dire la spécificité quand même du numérique, c'est que oui, dans tout business, il y a des gagnants et des perdants. C'est qu'une fois que vous avez gagné, c'est très difficile de vous déloger. Les barrières sont tellement élevées. Regardez Google Search, c'est encore 90% du marché en Europe sur les moteurs de recherche. Et donc, c'est assez rationnel, comme tu le disais, c'est assez rationnel de dépenser beaucoup, de perdre beaucoup d'argent en se disant un jour, le marché sera, nettoyé, je serai en monopole, appelons un chat ou en quasi-monopole, et là, je monterai mes prix. Et si nous en doutons, regardez Uber, Uber a perdu de l'argent pendant 12 ans, les marchés ont tout à fait financé, sauf qu'une fois qu'elle s'est retrouvée en position dominante, elle a monté les prix des deux côtés. Du côté des chauffeurs Uber, où les taux de commission ont augmenté, et du côté de vous et moi, du client. On a tous remarqué que le prix de la course Uber avait augmenté. Donc c'est quand même un business model où de toute façon, il est rationnel, en effet, de participer à la course, parce que le contrefactuel, c'est ça ou rien. Il en restera un ou deux à la fin, mais celui qui reste à la fin, il sera difficile à déloger. Mais ça, c'est pas un marché tout à fait comme les autres.
Et il y aura beaucoup de perdants qui auront perdu beaucoup, quand même.
Oui, mais celui qui gagnera peut-être plus que ce qu'ont perdu les autres, parce qu'il sera quand même relativement difficile à déloger. Enfin, regardez la part de marché de Meta plus TikTok sur les réseaux sociaux. Regardez la part de marché de Google Search sur les moteurs de recherche. Vous prenez tous les champs du numérique, il y a 2-3 acteurs. Regardez dans les réservations d'hôtels, il y a Booking et Expedia, point à la ligne. Donc, à la fin des fins, on est quand même dans un marché, the winner takes it all, et ça, c'est que le numérique. On retrouve pas ça dans les autres types de marchés. Donc, ce qui est important, c'est pas le fait qu'il y en ait qui survivent ou pas, c'est que celui qui survit, pour aller le déloger, ça va être très compliqué.
Merci beaucoup à tous les trois d'être venus ce matin dans Les Experts. Dorothée Rouzet, Emmanuel Combes, Raphaël Gallardo. Emmanuel Combes, je donne votre livre parce que vous me l'avez apporté, le transport aérien, et parce que vous m'avez dit que les bénéfices étaient reversés.
Oui, Aviation Sans Frontières, qui est une association qui soutient les enfants malades en Afrique.
C'est chaque jour un livre. Hier, c'était la BD de Gilles Raveau. Ce matin, c'est votre livre. On se dit à demain pour une nouvelle salve des Experts en direct sur BFM Business. Dans un instant, vous retrouvez Marie-Cœur d'Orbois avec les Experts de l'IMO. Bonne journée, à demain.
Débat et controverse. Les Experts sur BFM Business.